aime, ou du moins une personne. Et cette personne, c'est Jacob. Vous connaissez Jacob ? Vous connaissez son histoire ? Donc, ce n'est pas la peine, alors je peux m'installer. Mais on a toujours des choses à apprendre. Jacob, c'était quand même un individu très particulier. Son nom, le supplanteur. Celui qui a passé par-dessus son frère aîné, Ésaü, qui a pris sa place, qui lui a volé sa place, on peut dire. Le tricheur. Quand il a reçu la bénédiction de son père, il s'était mis sur les bras une peau de bête, parce que Ésaü était velu, et lui, pas du tout. Bon, il a triché. Il a obtenu la bénédiction. Et quand son frère est arrivé de la chasse, il n'avait plus rien. Un voleur. Un trompeur, un lâche, cet homme. Cet homme est pourtant un patriarche dans l'Écriture. D'une personne détestable, Dieu a fait un conducteur. Détestable. Il était toujours dans les jupons de sa mère. Ésaü était toujours avec son père. Maman protégeait son fils. D'une façon un peu quand même particulière, et puis, oh là là, c'était celui qui était son idole, cette mère. C'était cet homme. Et Dieu l'a touché. Dieu l'avait déjà, dès sa conception, il savait ce qu'il allait devenir. Savez-vous, frères et sœurs, qu'ici, chacun d'entre nous, nous sommes connus de Dieu même avant notre naissance ? Que ce n'est pas quelque chose du baratin, du discours, c'est écrit. Il nous connaît avant même. Quand nous étions tissés dans le ventre de notre mère, Dieu nous connaissait. Le psaume 139 le rappelle. Dieu fait de nous des créatures merveilleuses. Et pourtant, cet homme, Jacob, il n'avait rien de merveilleux. Et puis nous ? Est-ce que nous connaissons la vie de chacun d'entre nous ici, hein ? Est-ce que nous nous connaissons jusqu'à les profondeurs de notre existence bien avant que nous nous convertissions ? Qui étions-nous ? Que faisions-nous ? Comment on se comportait ? Quelle était notre attitude dans le quotidien ? Bon, j'ai l'impression qu'ici, on s'ignore beaucoup hein, de ce passé. Mais ce qui est important, c'est qu'on connaisse maintenant le présent et que nous nous aimons comme des frères et des sœurs. Dieu connaissait Jacob et il voulait lui donner un avenir et une espérance. Celui qui allait être le père des tribus d'Israël, des 12 tribus d'Israël, le père de Joseph et d'autres. Le Dieu de Isaac, on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Hein, c'est cité souvent dans l'Écriture. Mais Jacob, pourtant, ne connaissait pas Dieu dans son enfance. Il se moquait de lui. Mais pourtant, Dieu va s'occuper de lui et l'amener à une grande destinée. On va lire dans la Genèse, au chapitre 28, quelques versets. À partir du verset 10 de ce chapitre jusqu'au verset 22. Donc Jacob va partir de là où il vit avec ses parents pour aller chercher une épouse et en même temps pour fuir son frère Ésaü. Parce que... Ésaü, pardon. Bon oui. Merci Marie-Thérèse. Au moins j'ai quelqu'un qui me corrige. Jacob est donc parti de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu soit redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il y versa de l'huile sur son sommet. Il lui donna le nom de Bethel, maison de Dieu. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voilà une histoire. Une belle histoire d'un homme qui en somme ignorait que Dieu s'occupait de lui. Un homme qui était égaré, perdu, un homme compliqué, tordu, difficile à comprendre, mais on sait qu'il est aimé de Dieu, parce que Dieu vient de lui dire. Il vient de lui dire des choses exceptionnelles. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais quand il parle directement à une personne, il y a intérêt de l'écouter, et intérêt de suivre ce qu'il nous dit, de ne pas prendre à la légère ce que Dieu nous dit d'une façon précise. Quand je regarde la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi, à ta postérité. C'est parole de Dieu, c'est pas une parole d'homme. Combien les hommes font des promesses, comme on dit en politique, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, hein. D'accord. Et ceux qui les professent, ceux qui les disent, s'engagent aussi. Et Dieu, lui, s'engage et s'engage d'une façon absolue, sans détournement du sujet. Il donne aux hommes des indications, des choses précises. Quand il appelle, il appelle. Quand il parle à une personne, il faut bien l'écouter. Et parfois, quand on l'écoute, si on ne l'écoute pas, il y a des conséquences. Jacob a entendu cette voix. Il a entendu cette voix et dit, dans son songe, c'est plus qu'un songe, c'est presque une réalité. Il se réveille et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Combien de fois dans notre vie, frères et sœurs, nous ignorons que Dieu est avec nous, à côté de nous, et nous faisons comme s'il n'existait pas. Même si nous le connaissions déjà, même si on a fait des expériences avec lui. Parfois dans notre vie, nous sommes comme étant seuls. Dieu n'est pas là. Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a quittés. Dieu est parti. Dieu s'occupe de votre affaire. Il ne s'occupe pas de moi. Il ne m'aime pas. Je ne suis pas visible à ses yeux. Pourtant, j'en fais des choses. Quand je pense à ce qu'on a eu dimanche avec le fils prodigue, c'était très bien, hein. Bravo, Axel. Mais tu as bien entendu le message du Fils. Aujourd'hui, le Fils s'est retourné vers Dieu. Il veut le servir et l'honorer et le glorifier. Ça, on ne fait pas l'oublier. Alors, je pense que tu ne vas pas l'oublier parce que tu as joué ce rôle. Hein? Mais pour d'autres parmi nous, nous sommes aussi comme des fils prodigues qui préfèrent vivre leur propre vie plutôt que d'écouter ce que Dieu leur propose. Le Père proposait tout au Fils. Mais il voulait sa part. Jacob, lui, il fuyait, il partait pour aller chercher une femme. Et pas une étrangère, parce que sa mère lui avait bien dit, et son père aussi, pas une étrangère, une fille de la famille. Des Hébreux. Jacob a vu cette échelle. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 51, il y a une chose intéressante qui est donnée. C'est une parole de Jésus, là. Que dit-il ? Après avoir rencontré Nathanaël et en lui disant que je te connaissais. Il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jacob a vu une échelle. Il a vu les anges qui descendaient et qui montaient sur cette échelle. Et Dieu était en haut et regardait. Et on peut dire, mais Jésus n'est-il pas un pont entre nous sur la terre et le Seigneur dans le ciel? Déjà, dans l'Ancien Testament, on retrouvait des choses que nous allions lire dans le Nouveau Testament, des réalités. Là, c'était qu'un songe, une image, mais dans la réalité, Jésus a dit la même chose. Je suis cette échelle par laquelle descendent et montent les anges. Pourquoi d'abord, pourquoi descendre d'abord ? Tout simplement parce qu'ils ont reçu des ordres de Dieu. Et ils vont sur la terre pour que ces ordres puissent s'accomplir et se réaliser à travers la puissance invisible des anges qui nous entourent. On va faire le culte des anges. On voit dans certains milieux où les anges sont plus importants que Dieu. Mais les anges descendent sur la terre pour exécuter les ordres de Dieu. Et ils remontent pour lui en donner un rapport. On parle souvent des anges gardiens dans le monde catholique, plus que chez nous, bien sûr. Je crois que Jean, lorsqu'il était à l'Apocalypse, il a vu son ange qui lui a dit « Ne me prosterne pas devant moi, je te sers, moi. » C'est moi qui te sers, c'est pas toi, c'est pas à toi de me servir. Donc les anges, ils sont là. Déjà à l'époque de Jacob, comme aujourd'hui. Et ils écoutent ce que Dieu leur dit de faire ou d'accomplir. Ils descendent et ils en rendent compte. Nos comportements, nos attitudes, frères et sœurs, sont sous le regard de Dieu. On se dit, mais comment Dieu peut-il nous parler, nous voir, nous connaître sur des milliards d'habitants ? Hein ? Chacun est-il sous le regard de Dieu ? Il y a les puissances, les esprits de Dieu, que Dieu fait descendre, des anges qui rendent compte de ce que nous sommes. Ce que nous sommes. Parce qu'on se dit, oh ben Dieu, je m'appelle toujours de cette histoire un peu d'une gamine, j'ai dû le dire ici déjà, mais je vais le répéter, pour ceux qui n'étaient pas là. Comme ça, ceux qui ont entendu vont s'en souvenir, ceux qui n'ont pas entendu, ben ils vont l'apprendre. Il y avait une petite fille qui aimait bien la confiture. Sa maman était une spécialiste dans la fabrication des confitures excellentes. Et puis, elle est stockée dans le grenier, sur une armoire, bien sûr, hors de portée de certains qui auraient désiré en prendre un pot et y mettre le doigt. Et donc, la petite fille, elle voit le pot de confiture dans le grenier, elle y monte, et puis il y avait une gravure religieuse, il y avait Jésus. Jésus qui était à l'opposé de l'armoire. Alors elle réfléchit, elle pose, et puis elle va vers la gravure, elle enlève les punaises, elle retourne les punaises. Et elle prend le pot de confiture. Et elle s'en va avec. Alors quelques jours après, maman s'adresse à la petite fille, mais il y a quelque chose de bizarre chez toi là. Je vois quelque chose. Tu n'as pas pris de la confiture par hasard? Et la petite fille dit, il te l'a dit. Dieu te l'a dit. Oui, comme quoi? C'est une anecdote, mais qui montre bien que parfois, si on commet des actes, des choses, Dieu le voit quand même, hein, même si on fait en sorte qu'il ne voit rien. Et pour Jacob, c'était ce qu'il faisait dans sa vie. Ouais. Dieu de côté, mais là, comment ça se fait? J'étais installé là et Dieu était là. Et je ne l'avais pas vu. Je ne m'en ai pas rendu compte dans notre vie, frères et sœurs. Une leçon, faisons attention à nos comportements et nos attitudes. Nous avons besoin de vivre dans la vérité. Mais notre nature est tellement mal faite, je ne vais pas dire mal faite, non, mais c'est nous qui la tordons, que combien d'actes commettons-nous en toute bonne conscience, en espérant que Dieu n'en sache rien? Malheureusement, il sait pour nous. Il y a des conséquences. Et notre ami Jacob s'en rend bien compte brusquement lorsque, en réfléchissant à ce que Dieu lui avait dit, il faut que je retrouve le texte, il y a beaucoup de pages dans la Bible, il faut en tourner, oh, et même des feuilles qui s'en vont. Je sais que j'ai une Bible, je ne veux pas dire, non, c'est quand même pas une idole, mais je suis attaché à ma Bible depuis des années. Et je dis, il y a quand même des pages qui commencent à se détacher de moi. Et cette Bible, finalement, c'est vrai qu'on est habitué à voir les textes, on sait qu'est-ce qu'on a souligné, où on se trouve exactement. Hein, et là, on est... Il faut que je retourne la page. Hein. J'étais passé à l'Exode. Non, pas encore. Exode, Genèse, combien déjà? Ah, vous avez suivi. Certainement, l'Éternel est en ce lieu, verset 17, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur. Il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. Vous savez, tout lieu... Nous devons le considérer comme étant la maison de Dieu. Nos maisons, nos lieux de travail. Peut-être pas les boîtes de nuit, quand même. Je me rappelle toujours qu'il y avait une jeune femme qui venait à l'église il y a de nombreuses années, qui le samedi soir allait dans un autre lieu que celui-ci, semblable, levait les bras, chantait, dansait. Et puis le dimanche matin, au culte, levait les bras, dansait. Dieu, pourtant, la voyait là-bas. Et cela s'est su. Il a fallu mettre les choses au clair. Ou on suit Dieu, ou on s'en éloigne. Je crois me souvenir qu'elle n'est plus revenue à l'église pendant un certain temps. Dommage. Mais ce qui est important, c'est que on est la révélation de ce que nous sommes et de ce que nous faisons véritablement. Dieu n'a pas besoin de nous parler toujours, mais il peut nous montrer, comme il a montré à Jacob. Et Dieu lui a dit, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Mais ne jouons pas quand même ne jouons pas avec Dieu. Ne nous laissons pas entraîner par des attitudes et des comportements qui sont sujets à caution et qui nous mettent plutôt dans l'embarras. Le ciel est ouvert sur Jacob, le ciel est ouvert sur nous. Peut-être qu'il y a ici parmi nous des Jacob en puissance. Ce matin, Dieu veut vous dire ce lieu est redoutable. Dieu est ici au milieu de nous. Par son esprit, il agit avec puissance. Il agit au milieu de nous, dans chacune de nos vies. Nous ne pouvons pas prendre les choses à la légère. Si nous pensons que demain sera peut-être plus facile, que demain, oui, je déciderai de te suivre, mais j'ai encore le temps. N'endurcissez pas votre cœur. Comme il a été dit tout à l'heure pendant le moment de louange. N'endurcissez pas votre cœur. Dieu veut vous donner un avenir, une espérance. Et Jésus est ce pont qui est créé par Dieu entre nous et le ciel. Ce pont que nous devons franchir. Il y a un abîme énorme à droite, à gauche. Mais ce pont est là. C'est le chemin, comme disait tout à l'heure Jean-Luc, le chemin sur lequel nous devons marcher, qui peut être périlleux, étroit, mais c'est le bon chemin. Et finalement, Jacob a pris presque un engagement, mais il y a quand même des si. Ah, il n'a pas changé. Il voit Dieu, il voit sa puissance, il voit sa grandeur, et puis il fait si. Il n'y a pas beaucoup de si dans vos vies, non? J'ai eu l'occasion d'en avoir dans ma vie, oui. Quand j'étais gamin, bon, bien longtemps avant ma conversion, des années avant, peut-être 20 ans, plus de 20 ans, j'étais à la maison et puis j'ai pris un bouton, un gros bouton de manteau, et puis je l'ai mis dans ma bouche, hein? Les gros boutons des par-dessus à l'époque. Et puis, je l'ai mis à bouche, et je l'ai avalé. Ah ah mon Dieu! Mon Dieu! Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir parce que ce bouton... J'avais l'appendice ou je ne sais pas quoi, mais... Péritonite, je n'avais peut-être pas l'idée du mot à cette époque-là. Mon Dieu, mais fais que je vive. Il m'a permis de vivre. Hein. Je suis là. Mais ça a duré des années avant que je comprenne que Dieu m'aimait. 20 ans peut-être, avant que je décide de le suivre. Il m'avait déjà préservé, il m'avait garé même de la mort. J'aurais pu mourir asphyxié ou étouffé. Ça a été pas dans la bonne voie. Ça aurait été parti du côté de la trachée artère plutôt que l'œsophage. Ça m'est arrivé cette expérience d'avaler un morceau de pomme de terre et de rester plus d'air. Plus d'air. Comment faire? Pas intérêt d'aspirer. Et plutôt intérêt de rejeter. Il faut pouvoir le faire. Et je ne sais pas, le mécanisme, Dieu m'a montré comment faire. J'ai appuyé sur mon diaphragme, le sternum, et puis le morceau de pomme de terre a jailli. Marie-Thérèse était là, à côté, elle disait, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ah oui, expirez. Dieu veille sur nous. Enfant avec ce bouton, de nombreuses années après, avec ce morceau de pomme de terre, ça aurait pu être... Hein, vous voyez, Dieu veille sur nous. Alors, pas trop de si, quand même. Et là, quand on regarde ce que Jacob dit, le verset 20, on rencontre Dieu, on le voit à l'œuvre, on l'agit. Pourquoi le dire « Je te suis » Et il dit, si Dieu est avec moi et me garde pendant tout mon voyage, ce voyage que je fais, s'il me donne, que de conditions, hein, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Oh. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Wow, que d'engagement. Si. C'est pas dit, je ferai tout de suite. Si. Ça a duré 21 ans. Avant que cela soit réalisé. 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel, 7 ans pour continuer à travailler, 21 ans, et puis après il décide, mais Dieu était avec lui, il lui a montré comment faire. Et puis il revient sur le chemin, et puis en plus le lâche, il fait marcher ses femmes et ses enfants devant lui, et lui est derrière. Mais il a rencontré Dieu ou pas? Et quand il s'arrête à Bethel à nouveau, et qu'il combat Dieu là, hein, il y a la bagarre, le combat là, et là, il a la hanche déboîtée, et pourtant on dit, on fait changer de nom, Israël, celui qui a combattu Dieu. Oh. Et là, il change d'attitude, c'est lui qui est devant, parce que Isaïe arrive en face encore, hein, il n'a pas oublié, depuis 21 ans. Il a la mémoire tenace. Et là, c'est lui qui va tout seul devant, avec des présents, et ses femmes sont derrière ses enfants. Changement de. Mais 21 ans. Il aurait pu gagner du temps. Nous, frères et sœurs, ne perdons pas de temps dans nos décisions de suivre Dieu et de l'honorer. Ne perdons pas de temps. Parce que les temps sont courts. On ne sait pas quand Jésus va revenir. Il peut revenir tout à l'heure. Il peut revenir demain ou dans 10 ans. On ne sait pas. Depuis 2000 ans, on parle du retour de Christ. Ne nous décourageons pas. Ceux qui ont cru à cela, ils sont avec lui dans le ciel. Et ils ressusciteront dans leur corps à son retour. Mais nous, on dit, oui, la fin des temps est proche. Oui. Comme disait un frère, je me rappelle toujours, on est un jour plus près du retour du Seigneur. Demain, on sera un jour plus près du retour du Seigneur. Oui. Vivons dans cette dimension et ne soyons pas comme Jacob a pu faire en retardant, en somme, la bénédiction de Dieu pour sa vie. Pendant 21 ans. On va dire, quel gaspillage. On va dire, mais il vivait vieux à cette époque-là. Oui, d'accord. Oui, oui, on vit vieux à cette époque-là. Ici aussi aujourd'hui. Et même si on a plus de 80 ans, et si on n'a pas donné sa vie au Seigneur, il est temps de le faire parce que il revient bientôt. Et ce qui est important, c'est que nous ayons, au-delà de notre mort physique, une vie éternelle, spirituelle, qui nous est réservée à chacun d'entre nous. Si nous croyons de tout notre cœur, si nous sommes décidés à le suivre, n'attendons pas et ne posons pas des conditions. Jacob a posé beaucoup de conditions. Il a perdu 21 ans. Il aurait pu, tout de suite, à peine qu'il avait eu cette vision, se décider à suivre Dieu, à l'honorer et à le servir. Plutôt que d'aller perdre son temps, quand même. Bon, il y a eu ses 12 fils. Ah oui, 12 tribus. Et ces tribus, elles n'ont pas été non plus très belles. Quand on regarde l'histoire du peuple de Dieu dans la Genèse, et quand on voit l'Exode et tout le reste, on se dit, mais quand même, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce que Dieu attend d'eux. Ne perdons pas de temps. Jacob, lui, je pense qu'il a compris à la fin de sa vie, jusqu'à ce qu'il retrouve Joseph, hein, là-bas, en Égypte, et qu'il meure comblé, mais heureux d'avoir retrouvé le fils qu'il préférait, Joseph. Que de temps perdu, que de vie gâchée. Aujourd'hui, frères et sœurs, si nous n'avons pas donné encore notre cœur à Christ, si nous n'avons pas donné notre vie, il est temps de décider. On ne sait pas ce que sera demain, ce que sera 2016 et au-delà. Mais si nous donnons notre vie à Christ, si nous le suivons, c'est une source de joie et de bonheur. De bonheur. Quand Dieu dit encore à Jacob, la terre sur laquelle tu es couché sera à toi. Tu t'étendras à droite, à l'Occident comme à l'Orient, du Sud jusqu'au Nord. Je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Déjà, cette promesse est importante pour nous. Je te garderai, je serai avec toi. Je serai avec toi partout où tu iras. Rappelons-nous de cela. Je ne sais pas quel sera pour moi comme pour Marie-Thérèse, pour notre vie, qu'est-ce que Dieu nous prévoit encore dans les années qui viennent, mais nous voulons croire que Dieu veut nous conduire et nous diriger selon sa volonté, pour annoncer et proclamer encore que Christ est celui qui est le maître de notre vie. On n'est pas parfait, je ne suis pas parfait. Mais je sais une chose, c'est que Dieu m'aime, et qu'il veut me donner de vivre encore des choses avec lui, dans la joie, de le servir, de l'honorer. Mais soyez attentifs, frères et sœurs. Soyez attentifs. Les temps sont difficiles, oui. Peut-être moins pour nous, les plus âgés, je pense aux plus jeunes. Mais donnez votre vie. Ne vous laissez pas berner par le monde. Ne vous laissez pas entraîner par le monde en disant « j'ai encore le temps ». Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Alors que votre cœur puisse être touché et que vous puissiez vous abandonner pleinement dans les mains du Seigneur pour votre vie tout entière. Celle que Dieu vous permettra de vivre. S'il revient bientôt, ce sera l'éternité. Mais s'il y en faut encore des siècles, mais ce que vous vivrez, vous, après moi, je crois que ce sera pour la gloire de Dieu. Et que les assemblées que nous connaissons puissent prospérer à tous égards, parce qu'elles veulent marcher dans la volonté de Dieu et le suivre, sans des si, sans des mais avec un désir profond de l'honorer. On va prier.